Bonjour Raphaël Bourgois et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, journée spéciale, vous le savez, d'Alep à Calais face à l'urgence dans les pieds sur terre pour notre retour sur du vendredi. Nous nous arrêtons à Saint-Étienne dans l'église du Père Riffard, poursuivi pour avoir hébergé et aidé des migrants. C'est une émission qui a été diffusée pour la première fois le 10 septembre 2014 à écouter ou à réécouter dans ces tristes circonstances. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Le jeudi 21 août 2014, à 21h, Abdelhak Goradia meurt dans une fourgonnette de police qui le mène à l'aéroport de Roissy, d'où il doit être expulsé vers l'Algérie. Étouffé par son vomi, l'homme avait 51 ans, vivait en France depuis 18 ans, en situation irrégulière. Deux semaines plus tôt, Asma, une Syrienne de 23 ans, arrive enceinte avec son mari Yasman et leur fillette de 3 ans au port de Pozzallo, en Sicile. Ils viennent d'être secourus par les services de police responsables de l'opération Mare Nostrum, chargée de porter secours aux migrants en perdition en Méditerranée. Asma est la 100 millième personne secourue dans le cadre de cette mission. Asma est aussi étudiante en droit, elle espère devenir avocate dans son pays d'accueil, l'Italie. Encore faut-il qu'elle soit régularisée, car Asma n'a pas de papier. Le 12 mai de cette année, dans les environs de Nantes, enfin, Martin Schulz, président du Parlement européen, déclare « Nous devons lutter ensemble contre les causes de l'immigration et non contre les immigrés, parce que chaque vie perdue en Méditerranée est une tâche sur notre civilisation ». Il s'agace, je cite, que l'Europe soit capable de légiférer sur les pommeaux de douche ou la courbure des bananes, mais quand il s'agit d'intervenir sur un sujet vraiment européen, où la gestion commune aurait une vraie valeur ajoutée, elle reste muette. Il ajoute, nous devons lutter ensemble pour une Europe plus solidaire, plus humaine et plus juste. Et quand il dit cela, Martin Schulz pense à ceux, je cite encore, qui se trouvent à gérer une situation d'urgence sans avoir les moyens ni les ressources appropriées. Directement ou pas, il pense au père Riffard, à son église, dans laquelle ont trouvé refuge une cinquantaine de personnes qui demandent l'asile pour eux et leurs enfants. C'est son histoire que Pauline Mocor vous raconte aujourd'hui. Les pieds sur terre, c'est jusqu'à 14h sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Et il dort. Le père Riffard, il est en train de dormir. Bonjour.
Bonjour. Entrez.
Les gens avaient peur que vous dormiez.
Je leur avais dit de me foutre la paix jusqu'à vers 3h. Vous les avez vus déjà ?
J'ai vu des gens qui transportaient des matelas.
Ah bon, ils transportent encore des matelas? Qu'est-ce qu'ils font? Oh, je vais y voir.
Comment on vous appelle? Père Riffard?
Oh, les gens qui me connaissent un peu m'appellent Gérard, mais enfin, vous m'appelez comme vous voulez. Hein. Père Gérard, ça va très bien. Alors, par quoi il faut commencer pour se présenter? J'ai passé le stade des 70 ans il y a quelques jours. J'étais pas un fidèle de l'école. Jusqu'au jour où j'ai décidé de rentrer au séminaire. Mais pourquoi? Voilà, ça c'est le grand mystère. Il y a eu un moment, je me suis dit, c'est peut-être comme ça que tu seras le plus utile à tes copains. Et j'avais envie de vivre mon ministère de prêtre dans un quartier populaire pour que les gens puissent découvrir que la foi n'est pas faite simplement pour les gens qui ont des sous, pour les gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'influence, mais que c'est aussi pour les gens simples. Ils ont été parmi les préférés de Jésus.
Le père Gérard Riffard cumule donc deux fonctions. Il est curé de Montréno et l'évêque lui demande aussi de s'occuper des demandeurs d'asile. Allô ? Le 11 juin de cette année, le père Riffard est convoqué devant le tribunal de police de Saint-Étienne pour avoir hébergé des demandeurs d'asile, et ce, malgré l'interdiction de la mairie. Le jugement devrait être rendu aujourd'hui. Sera-t-il jugé coupable parce que cela fait des années qu'il héberge des demandeurs d'asile chez lui, dans la chapelle et la salle paroissiale? Il vit dans son appartement attenant à l'église du quartier de Montréno, sur les hauteurs de Saint-Étienne. Quand j'arrive chez lui, il est en train de dormir. Ou peut-être qu'il fait semblant, qu'il fait croire cela pour qu'on lui foute la paix, comme il dit. Parce que la vie communautaire, avec une soixantaine de personnes, ça fatigue quand même. Surtout quand ça a commencé depuis des années.
Et les premiers avec qui on a été plus en contact, c'était une famille de chrétiens irakiens, avec deux enfants. Ça a été un jeune Pakistanais. Puis après, il y a eu des Africains, des Congolais. Et finalement, c'est comme ça qu'est né notre groupe Anticyclone. Au début, on était 10, 15. Aujourd'hui, il y a 350, 400 membres qui viennent de toute l'agglomération stéphanoise. Essentiellement des Africains, nous, on accueille. Hein. Mais parmi les Africains, il y en a qui sont de pays où il y a beaucoup de musulmans, donc ils sont musulmans. Ils savent clairement que nous, on est l'Église catholique. Mais on leur dit que, quoi qu'on soit, qui qu'on soit, on est peut-être capable de se rencontrer, de se parler, de prier ensemble. Alors il y a eu toute une époque où ces demandeurs d'asile étaient dans des hôtels, jusqu'au jour où la préfecture a décidé que ça leur coûtait trop cher et a mis tous les gens dehors. Et il y en a un certain nombre qui nous ont demandé de les aider à ne pas passer les nuits dehors. Et c'est de là qu'après sont venus un petit peu nos ennuis. On avait une grande salle où on a mis des matelas par terre, on a permis aux gens de se mettre à l'abri la nuit. Il y a eu 5-6 personnes, il y a eu 15 personnes, jusqu'au moment où on est arrivé à ce que la salle soit pleine et même archi-pleine, et qu'on mette des gens dans la petite chapelle à côté de l'église aussi, parce qu'on n'avait plus assez de place dans cette salle, voir des gens pleurer, voir des gens se mettre à genoux, et ça c'est quelque chose que je supporte pas, voir des gens refuser de partir. Au bout d'un moment, on dit, bon, ben, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, ben, ceux qui sont dans la salle, ben, ils serrent un petit peu plus et on y arrive. Aujourd'hui, d'après les derniers comptes qu'on a tenus, on doit héberger 43 adultes et une dizaine d'enfants. Tant que l'état de notre monde en est là, il arrivera du monde chez nous. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais je crois que Michel Rocard, quand il a dit ça, a continué en disant « mais il faut qu'on en prenne notre juste part ». Regardez ce qui se passe en Irak actuellement. Où est-ce qu'ils sont, les gens qui sont obligés de quitter leur pays? Ben, ils sont d'abord dans d'autres régions de leur pays. Puis après, ben, ils vont dans les pays limitrophes. Ils sont là par milliers. Quelques-uns arrivent chez nous. Alors, ça nous paraît beaucoup. Mais n'empêche que le nombre de ceux qui arrivent en France est relativement modeste. Alors, la misère du monde, elle existe. Il y en a une part qui est chez nous, donc on a à les accueillir. C'est des gens qui, peut-être au départ, nous coûtent. C'est des gens qui sont capables d'apporter. Souvent, c'est des populations jeunes, capables de travailler et qui ont un désir d'apporter aussi quelque chose au pays qui les accueille. Dans la petite chapelle où il y en a qui dorment. Alors dans la journée, ils entassent les matelas, là, dans un coin, ça leur donne un peu d'espace. Alors c'est un peu le beans, hein. Ah mais ils ont rangé encore, ça va. Alors Patty, t'as eu du courrier?
Ouais, j'ai eu ça.
T'as eu quoi?
Ça a été.
Ça a été?
Ouais.
Ah.
Bon, je viens de recevoir un courrier de l'OFRA, donc on m'a accordé l'asile. Je suis vraiment ravi de ça.
Et alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
Je sais pas.
Tu vas nous payer à boire d'abord?
Bien sûr, rendre grâce plutôt au Seigneur.
Ah. Mais le Seigneur, il a fait, il t'a aidé, mais c'est quand même toi qui t'es bien défendu aussi. T'es libéré un peu?
Ouais.
Donc maintenant, c'est pas fini, hein. Il va falloir...
La lutte continue.
Trouver un endroit pour habiter. Ouais. Ça va nous faire une place, là.
Ouais.
Et puis voir si tu trouves une formation, du boulot... Bon, ben, je suis content pour toi. Hein.
Ouais. Mais c'est à moi de vous remercier parce que sans vous, donc, peut-être que je ne pouvais pas m'en sortir.
Ah, pas bien ça.
Ouais, la moindre chose. J'ai dit merci.
Sur 100 personnes qu'on reçoit, Il y en a, mettons, au niveau des Africains, une dizaine, une douzaine qui sont reconnus comme réfugiés et les autres sont rejetés. Là, j'en ai quelques-uns qui vivent avec moi, dans mon appartement. Il y en a un qui avait un dossier très solide devant la CNDA. On avait beaucoup travaillé, qui
est
Cour nationale du droit d'asile, en recours après le rejet de l'OFPRA, et qui a eu une décision de rejet encore. Un jour, il a été chercher le courrier recommandé, puis il me l'a amené, puis il me l'a mis sur la table, quoi. Hein. Bon, j'ai compris tout de suite. Pour lui, ça a été l'effondrement, et pour moi qui vis avec, ben, ça a été l'effondrement aussi. Ça a été un peu le dégoût. Quand on lit le rejet, il y a de quoi d'avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Je partage à plein ces moments aussi de découragement. J'ai pas le droit qu'ils durent trop. J'ai pas le droit non plus de rester couché.
Alors, Miguel.
Raconte-moi. Viens t'asseoir une minute.
J'étais convoqué à l'OFPRA. Mmh.
Le père Gérard Riffard reçoit dans le salon de son appartement qu'il a transformé en bureau. Quand on pousse la porte sur laquelle est accrochée l'aube blanche du curé et son étole rouge, on remarque d'abord la grande photo poster d'une manifestation ouvrière des années 70. Puis on voit le buste de Vierge Noire taillé dans un bois d'ébène. Et les deux meubles à étagères remplis de dossiers multicolores. Dans chaque dossier, la vie d'un demandeur d'asile.
Mon histoire, donc, j'ai essayé de répondre, être direct et répondre à ce qu'il me posait comme des questions.
Des questions difficiles, des choses qu'on n'avait pas assez expliquées.
Non, c'était pas vraiment des questions très difficiles. Parce qu'on m'a demandé ce qui m'avait fait quitter le pays. Je lui ai expliqué comment j'ai été arrêté. Comme mon frère a dit, arranger un passeur qui m'a aidé à quitter le pays. Et elle me demande là, du coup, mais pourquoi t'es pas parti en Italie pour rejoindre ta femme et tes enfants? Moi aussi, je lui ai dit, moi, premièrement, c'était pas ma destination. Je savais même pas que j'allais venir en France. Mmh. C'était le choix du pasteur. Mmh. Et moi, étant donné que c'était urgent et nécessaire que je puisse quitter l'Afrique, j'allais accepter partout. Mmh. Alors, le pasteur m'a amené ici en France. Et quand je suis arrivé en France, je ne savais même pas, parce que je suis séparé de ma femme depuis 2011.
Tu ne savais pas que ta femme était en Italie.
Je ne savais même pas que ma femme était en Italie.
C'est après que tu as su.
C'est après, après mon arrivée, 3 mois après, j'ai eu les premiers contacts. Parce qu'elle était portée disparue. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'elle était devenue.
Tu leur as demandé pourquoi ils avaient mis tout ce temps pour te convoquer. Il y en a qui convoquent au bout d'un mois ou d'un mois et demi.
Bon, c'est leur système.
Bon, ben on va voir ce que ça donne.
Hein. Ah oui, donc... Espérons.
Il faut espérer, hein.
Oui, espérons.
Mais il y a Patty aujourd'hui qui a eu le statut, donc
ah,
c'est
oui,
déjà...
du coup là, il est passé dans ma chambre et puis il m'a tout dit. Père, excusez-moi, c'est ma femme qui appelle. Là.
Ah ben, on te laisse.
Ah, merci beaucoup.
Alors, au merci. Micro. Et ouais, voilà la vie.
Le bureau ne désemplit pas, et depuis quelques mois, le père Riffard commence à fatiguer. En fait, cette histoire de tribunal, les convocations par courrier recommandé, l'interrogatoire par la police, les échanges épistolaires avec madame la préfète et toutes ses mains qu'il faut serrer parce qu'on commence à le reconnaître suite à sa nouvelle popularité, ça finit par le lasser. Il a le sentiment de devoir pallier au manquement de l'État.
Les gens qui ont à donner l'asile ne font pas leur boulot comme il faut. Plus de 80% des demandeurs d'asile sont rejetés. Moi, je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le même chiffre année après année. Alors, on dit, il n'y a pas de quota. N'empêche que, ils n'ont pas à être rejetés, ces gens. Dans la mesure où ils sont en danger, ils doivent être accueillis. C'est la Convention de Genève. Et la France est signataire de la Convention de Genève. Nous, on aimerait que l'État fasse son travail. Et c'est là, après, où on a du mal... à accepter qu'on soit traîné au tribunal parce qu'on a accueilli des gens qui n'ont pas été accueillis par ailleurs. Nous, parce qu'on en faisait dormir sur des matelas dans la grande salle, on nous a dit, si vous les accueillez, vous allez faire un appel d'air, il y en a davantage qui vont arriver à Saint-Étienne. Tous les membres du conseil d'administration avaient été convoqués à la police au mois de septembre. On était soupçonnés comme association accueillant les demandeurs d'asile, d'être un peu une filière, faisant venir des gens, fabriquant des faux papiers, mais des trucs mais complètement aberrants. Donc tous les membres du conseil d'administration ont été entendus par la police aux frontières de Lyon qui venait à Saint-Étienne pour nous entendre. Et moi, j'ai été convoqué en dernier. J'ai eu 5 heures d'audition. Bon, ils ont fini par se rendre compte que tout ce qu'ils avaient dans la tête, ben, il n'y avait rien. Donc, il y a un moment qu'on était dans l'œil du procureur. Ils ne pouvaient pas nous embêter pour ce que faisait l'association. Donc, il restait cette affaire d'hébergement, où on avait la réglementation contre nous. On est bien obligé de reconnaître qu'il y a une réglementation. Et quand on héberge des gens, il y a des normes. N'empêche qu'on est aussi un petit peu responsable de ce qu'on fait. On fait attention à ce qu'il y ait des détecteurs de fumée, à ce qu'il y ait des éclairages de sécurité. On n'est pas complètement inattentif à la sécurité et à l'hygiène quand même. Voilà. Comme tout bâtiment appelé à recevoir du public, on a tous les 4-5 ans la visite d'une commission municipale de sécurité. Donc il y a 2 ans, on a eu cette visite. Puis ils ont découvert cette grande salle avec tous ces matelas par terre. Donc ils ont été étonnés un petit peu devant tout ça. Et de fait, cette commission a pris une décision interdisant tout hébergement dans les locaux de l'église. Donc nous, on a essayé de réagir en leur faisant remarquer que les conditions de sécurité étaient quand même respectées. Ils nous ont dit de mettre un extincteur supplémentaire. Donc ça, on l'a fait. De mettre des détecteurs de fumée, ils y étaient déjà. D'être attentif au dégagement des issues de secours. Et ils nous disaient de tenir quelqu'un éveillé toute la nuit en cas de problème. Alors on leur a dit, vous savez, si vous le voulez, on le fera. Donc on respecte ce que vous nous demandez, on est d'accord. Et puis il y avait la réponse après, c'est pas suffisant, voilà. Donc il y a eu un blocage, il y a eu un premier arrêté nous autorisant à utiliser les locaux de l'église dans une utilisation normale de l'église et interdisant toute activité de couchage. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que dans la journée, il fallait que je mette toutes les personnes qui dorment ici, il fallait que je les mette dehors. Moi, j'étais dans l'incapacité de faire ça, je ne pouvais pas. C'est quoi une utilisation normale de l'église? Moi, je me dis, c'est pas à la préfecture ou à la mairie de nous dire quel est l'usage normal d'une église. Est-ce que l'église, c'est uniquement le lieu où on se retrouve pour faire des prières? Ça peut être le lieu où on accueille aussi les gens qui sont en difficulté. C'est une manière, dans notre foi à nous, d'accueillir le Dieu auquel nous croyons, d'accueillir Jésus-Christ. Donc, ben, on a laissé faire, on a laissé passer le temps. Jusqu'au jour où j'ai été convoqué à la police, où on m'a dit, ben voilà, vous êtes convoqué devant le tribunal de police sous tel motif, avoir hébergé des personnes en dehors des réglementations, voilà. J'ai dit, ben écoute, on va y aller, puis on verra bien ce qui se passe. Hein. Ça a l'air de discuter fort. Hein.
France Culture, les pieds sur terre.
Qui c'est qui boit de la bière, là?
Non, ce n'est pas la bière, c'est du jus.
C'est du jus, ça?
C'est panaché.
Panaché? Ah, c'est de la bière avec de la limonade.
Non, parce que les enfants, s'ils prennent le panaché, c'est pas la bière.
Ben, si, c'est de la bière avec de la limonade, le panaché.
Ben non, moi, on croit que c'est du jus.
Ah, ils ont des réponses à tout. Le panaché, c'est un mélange de bière et de limonade.
Non, c'est mauvais.
Mais c'est... J'ai pas dit que c'était mauvais. Ce qu'on veut pas ici, c'est qu'il y ait de l'alcool.
Mais alors, le vin?
Mais vous buvez pas de vin, là.
Mais le vin, à l'église, on prend le vin.
Ah, c'est symbolique. Il faut que tu dises aux copains, quand les poubelles sont pleines, il faut qu'ils les sortent. Il y a des gosses qui ont laissé des miettes de gâteau là-haut dans l'entrée, on va tirer les souris encore. Il faut toujours être derrière les gens. Toujours, toujours, toujours.
Père, j'avais pris un morceau de pain là-bas quand j'étais. Juste un morceau de pain.
T'as pris un pain à moi?
Oui, juste un morceau.
Il n'avait pas de pain, il a été prendre le mien dans le congélateur. Ils sont à un âge où ils ne mangent pas avec la petite cuillère. Hein. Donc il faut qu'il y ait à manger. C'est un bon moment quand on prépare le repas et puis qu'on mange ensemble. C'est toujours un bon moment. C'est une vie de famille. Il y a toujours du monde, ça ne s'arrête pas. Il y a des moments, au contraire, être un peu tranquille, être un peu tout seul, ça fait du bien.
D'ailleurs, vous avez affiché des horaires. Des fois, vous devez vous sentir...
submergé. Mais alors, manque de chance, les Africains, les horaires, ils connaissent pas. On peut afficher ce qu'on veut comme horaire. Il y a des moments, il faut se battre pour qu'ils les respectent. C'est pas toujours simple. Donc, il y a des moments de chauffe, des moments d'énervement. Je vais pousser un coup de gueule. Je crois que de temps en temps, il faut faire peut-être le point sur la table. C'est quand même pas simple de vivre les uns sur les autres, hommes, femmes, enfants, quand on dort à 20 dans une même salle, s'il y en a qui veulent regarder la télé jusqu'à 4 heures du matin, ou d'autres qui mettent leur musique jusqu'à point d'heure, ben on empêche les autres de dormir. On a des Nigérians qui sont anglophones et qui profitent un peu pour faire croire qu'ils comprennent pas ce qu'on leur dit. Quand ils se mettent à s'engueuler, prêts à se taper dessus, on leur dit, attendez, vous vous croyez où, là? Vous n'êtes pas dans une salle de catch. Bon, on leur rappelle toujours un petit peu les exigences du lieu. Mais oui, ils m'appellent papa. Donc il y a un respect, je pense. J'ai été plusieurs fois appelé la nuit, emmener des femmes qui allaient accoucher à la maternité à Saint-Étienne en urgence. Je me rappelle un jour, il y a déjà quelques mois, où une femme était sur le point d'accoucher. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais pas là. Donc les gens qui étaient avec elle ont appelé les pompiers. Donc les pompiers sont arrivés et les gens lui ont dit, ben, le père n'est pas là. Bon, alors les pompiers l'ont chargé dans l'ambulance. Et puis sur ces entrefaits, j'arrive en voiture. Alors les autres vont vite dire aux pompiers, ben, le père est arrivé. Alors les pompiers disent, ben, dites au père de venir. Moi, je suis arrivé vers les pompiers et les pompiers m'ont regardé avec des yeux en disant « Mais c'est vous le père ?» Voilà, ils n'avaient vraiment pas fait quel style de père j'étais. Je les ai rassurés que j'étais une forme de père, mais que je n'étais pas le père biologique. Voilà, c'est des petites choses qui ont fait rire tout le monde, qu'on aime raconter.
Deux. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 à 10 euros, ça fait 140. Plus 15, 165. 155. Plus un chèque de 50, 205.
Plus de 200 euros.
Oui. Bon. Non, rien que ce matin, en 2 heures.
On a à charge complètement les frais d'hébergement, en sachant qu'on est amené à aider les demandeurs d'asile financièrement pour des transports, pour leurs frais de dossier, leurs avocats et tout ça. Hein. Et on ne touche aucune subvention, c'est nous qui payons. C'est l'association et c'est la paroisse. On tire le diable par la queue, nous aussi. Donc,
Bonjour.
Et Fée, tu viens toutes les semaines?
Non, pas.
Ben oui, mais bus, mais nous, on ne s'est pas engagé à vous donner de l'argent toutes les semaines.
C'est au prêt pour la bourse.
Et comment on fait, nous, pour trouver l'argent?
Il n'y a rien, nous, on est sans ressources, on n'a rien.
Mais je sais, mais nous, on est sans ressources, on n'a rien non plus. On est comme vous.
Les derniers temps, ils sont un peu plus sévères, hein, ces contrôleurs-là, on nous colle des contraventions. Moi, j'en ai déjà au total aujourd'hui 15 contraventions que j'ai jamais payées.
15 contraventions.
Et voilà, c'est difficile. 1,40€ le ticket.
Mais vous n'avez pas des rendez-vous tous les jours?
Non, pour la fête, je tenais rendez-vous pour l'hôpital.
Oui, il y a des moments où vous inventez des rendez-vous. Hein. Allez, va vite.
Allez, merci. Merci.
Au revoir.
Allez, au revoir.
Okay. Alors, c'était le mercredi 11 juin. J'étais convoqué à 8h30 au tribunal à Saint-Étienne, au palais de justice. Et à 8h moins 5, j'ai pris la voiture et je suis arrivé devant le palais de justice où il y avait déjà une bonne centaine de personnes qui attendaient parce qu'il y avait eu des appels à soutenir. Donc j'ai serré quelques mains, j'étais un peu gêné d'avoir déplacé tous ces gens. Je me dis... En même temps rassuré en disant, ben, t'es pas tout seul, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui soutiennent. On avait pu avoir l'aide d'un avocat. Il y avait une pétition qui avait rassemblé 2500 signatures. Voilà, jusqu'au moment où le président du tribunal est arrivé. Et puis après, on a attaqué. en sachant qu'a priori, au tribunal de police, la plupart du temps, les audiences, c'est 5 minutes, 10 minutes. Hein? Nous, ça a duré 3 heures. Ça ne m'a pas traumatisé. Hein? Le procureur a dit que je n'étais pas un délinquant, que j'étais un contrevenant. Moi, j'ai toujours été très respectueux de la loi. Mais arrive un moment, si la loi va à l'encontre de ce qui est essentiel dans la vie humaine, moi je me dis c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la loi. À ce moment, il faut soit la changer, soit l'adapter pour qu'elle respecte l'humain. La loi, elle est faite pour l'homme et pas l'homme pour la loi. Moi, je crois fondamentalement à ça. Donc, le procureur nous a reproché 265 jours d'infraction pour avoir hébergé les gens. Je ne sais pas où il a pris ce chiffre, ça fait beaucoup plus longtemps. 265 jours, il avait le droit de demander 1500 euros par jour d'infraction. Alors il a dit, oh ben, c'est une somme qu'ils ne pourront jamais payer, donc je demande 50 euros par jour, ce qui fait quand même une somme de 12 000 euros. Donc il a demandé au président de me condamner à 12 000 euros d'amende. Donc on va voir ce que le président va décider. Je ne les ai pas. Comment je vais faire? Je ne sais pas. En plaisantant, j'avais dit à quelqu'un, je vais essayer de jouer au loto ou à qui veut gagner des millions. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, je ne sais pas. On verra. Voilà, on va voir ce qui va se passer le 10 septembre. Mais il y en a un petit peu ras-le-bol de cette affaire. Moi, j'aimerais bien que ça s'arrête, quoi, hein, parce que on a autre chose à faire, plus sérieuse. Donc j'aimerais bien que ça soit point final, le 10 septembre.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et l'histoire du père Rifard à Saint-Étienne. Un reportage et un retour sur diffusé dans le cadre de la journée spéciale d'Alep à Calais face à l'urgence, signé Pauline Mocor, bien sûr, est réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Sachez que depuis la première diffusion de ce reportage en septembre 2014, la cour d'appel de Lyon s'est finalement déclarée incompétente pour juger le père Rifard, accusé donc d'avoir hébergé et aidé des migrants. Cette cour d'appel a renvoyé les poursuites vers le procureur de Saint-Étienne qui n'a pas encore rendu sa décision. D'Alep à Calais face à l'urgence, la journée spéciale continue sur France Culture. Dans quelques instants, Marie Richeux reçoit le cinéaste Bijan Anquetil qui s'est penché sur le sort des migrants afghans à Paris. Bon après-midi à l'écoute de notre chaîne.